au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Gilles Cantagrel, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans cette chronique pour Canal Académie Philippe Lesage, qui vient de publier aux éditions Papillon à Genève un livre merveilleux et qui m'a enthousiasmé, à tel point que quand il m'a demandé d'en faire la préface, je l'ai écrite avec grand plaisir, et qui est intitulé « Anna Magdalena Bach et l'entourage féminin de Jean-Sébastien Bach ». Anna Magdalena Bach, donc, c'est une personne que tout le monde croit connaître, dont tout le monde a parlé, parce que on croit savoir qu'elle aurait écrit une petite chronique qui a été fort répandue. Il y a même eu un film, très beau film, avec Gustav Leonhardt. Et on sait maintenant que ça n'est jamais qu'un roman charmant, mais totalement apocryphe, qui date de 1925. Donc, Anna Magdalena, la deuxième épouse de Jean-Sébastien Bach, qui a partagé sa vie pendant près de 30 ans, le quotidien, pour les joies et pour la peine, eh bien, on croit la connaître. Il y a des petits livres de musique pour Anna Magdalena. C'est devenue une figure mythique des amateurs de musique. Et finalement, eh bien, quand on regarde, il y a eu quelques petits récits romancés, mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu un seul livre historique et en même temps plaisant à lire sur cette personne si célèbre, croit-on. Alors, c'est bien d'avoir écrit sur Anna Magdalena Bach, mais j'aime beaucoup que cette Anna Magdalena soit entourée, donc précisément de l'entourage féminin de Bach. Il a eu une mère, il a eu une première épouse, trop oubliée, il a eu sœur, tante, que sais-je. Et c'est tout un environnement qui est celui d'une vie quotidienne en Allemagne du Centre, au début du XVIIIe siècle, un monde très éloigné de nous, finalement, qui revit dans ce livre de la façon la plus charmante et en même temps la mieux documentée. Alors, Philippe Lesage, les femmes avant Anna Magdalena, les femmes de Bach, c'est sa mère d'abord.
Alors, bien sûr, tout d'abord, il y a sa mère, qu'il perd malheureusement à l'âge de 9 ans. Il va être orphelin très tôt, il perd son père un an plus tard, à l'âge de 10 ans. C'est vraiment le premier drame. Donc, cette mère, il la connaît à peine, Maria Elisabetta, et il va en garder le souvenir, plus ou moins précis, bien sûr, mais tout au long de sa vie. Et il va certainement rechercher son image dans d'autres femmes tout au long de sa vie. Il y a, bien sûr, également sa belle-sœur, la femme de son frère aîné, Johann Christoph, qui a recueilli le jeune orphelin chez lui à Ordruf pendant 5 ans. Et la seule présence féminine autour de Jean-Sébastien pendant cette période, pendant ces 5 ans, entre sa 10e et sa 15e année, c'est Johanna Dorothea, la femme de Johann Christoph, le frère aîné de Jean-Sébastien.
Dont on ne sait rien, finalement.
Dont on ne sait rien. Mais... si, quelques données d'état civil. On sait finalement pas mal de choses, parce que, comme souvent à cette époque, elle était très prolifique. Elle a eu 8 enfants, et qui, chose rare pour l'époque, ont presque tous connu l'âge adulte et étaient presque tous musiciens. Ce qu'il faut, il est quand même utile de le rappeler, parce que Jean-Sébastien a baigné toute sa vie dans cette ambiance de musicien autour de lui. Et c'est vrai que la plupart des enfants de son frère aîné Johann Christoph et Johanna Dorothea sont musiciens et feront tous des carrières de musiciens, d'organistes, de musiciens municipaux dans différentes cours d'Allemagne. Donc c'est un personnage, Johanna Dorothea, peut-être plus central qu'on pourrait le penser. Elle n'est jamais évoquée dans les biographies, bien sûr, parce que bon, on dit rapidement que Bach, jeune orphelin, était recueilli par son frère aîné et le nom de Johanna Dorothea, n'est jamais prononcé finalement. Et ça a été un petit peu une des grandes joies de ce livre, c'est qu'en fouillant un petit peu dans les archives des églises d'Ordruf, on découvre des données, on sait qu'elle était fille de boucher.
C'est extrêmement touchant parce qu'on n'en parle jamais, vous venez de le dire, et le jeune Jean-Sébastien vit dans un milieu essentiellement masculin. Que ce soit les condisciples au gymnasium, ensuite à Lunebourg, à l'école, à Ordruf, c'est uniquement un milieu de garçons, et il était constitué à peu près comme tout le monde, et l'image de la femme disparaît très tôt chez lui.
C'est vrai que c'est vraiment la vie de Bach, les 15 premières années, c'est un univers masculin et un univers en noir et blanc. C'est vrai que, comme vous venez justement de le dire, quand il quitte Ordruf, donc c'est pour aller à l'école Saint-Michel de Lunebourg, c'est un pensionnat de garçons assez, où les mœurs sont assez rudes.
Oh oui.
Alors là, quand il sera à Lunebourg, il aura l'occasion de s'initier à la musique française à la cour de Lunebourg et très probablement au château de Zell. Et là, pour la première fois, il va voir une cour, il va voir des femmes en toilette et ça va être un petit peu une révélation de la féminité pour lui, certainement, à ce moment-là. Donc, après d'autres femmes, bien sûr.
Bah, les cousines, après, les cousines de Arnstadt, oui.
Les cousines d'Arnstadt, bien sûr. Donc, après, Bach sera organiste à Arnstadt. Et là, il va voir arriver trois cousines.
Mais qui vont être pas une,
trois cousines. Quelle aubaine pour lui, on imagine la scène.
Ah oui, quand on a 18 ans.
Voilà. Oui. Alors, bon, elles n'ont pas le cœur très gai, ces trois cousines, parce qu'elles arrivent à Arnstadt parce qu'elles viennent de perdre leur mère. Elles sont également orphelines de père
et
de mère,
exactement. Et elles s'appellent Bach comme lui.
Elles s'appellent Bach comme lui. Lui. Et l'une de ses trois cousines, bien sûr, on l'aura reconnue, c'est Maria Barbara, et qui deviendra donc 22 mois plus tard sa première épouse. Il faut aussi parler de la sœur aînée de Maria Barbara, Friedelaine, qui habitera chez les Bach pendant très longtemps, depuis l'époque de Weimar jusqu'à sa mort à Leipzig en 1729, et qui jouera un rôle dans le foyer, et là aussi un rôle qui n'est jamais évoqué, parce que bon, bien sûr, les sources sont tout à fait minces sur sa personnalité, mais elle a certainement joué un rôle important au sein de la famille Bach, plus important qu'on ne peut le penser.
Elle est restée célibataire.
Elle est restée
célibataire. Et au service de la famille.
Au service de la famille.
Comme une mère de substitution, finalement.
Exactement. Et d'ailleurs, bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai qu'à la mort de Maria Barbara, c'est elle qui a fait le lien avec les enfants entre la première et la deuxième épouse. Parce que bon, il y avait déjà 4 orphelins. Quand Maria Barbara décède, et la seule présence féminine qu'il y aura pour ses enfants, c'est Friedelaine, qu'on appelait tante Friedelaine. C'est elle qui a fait le lien jusqu'au second mariage de Jean-Sébastien. Et là, elle est restée de nouveau au foyer jusqu'à sa mort.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach est alors à Köthen. Il dirige la musique du prince Léopold d'Anhalt Köthen. Il a la tragique surprise au retour d'un voyage d'apprendre que sa femme Maria Barbara, qui était aussi sa cousine issue de Germain, vient de disparaître. Il reste veuf avec 4 petits-enfants. Et on sait que la douleur est extrême, sa musique en porte témoignage. Et puis, il va y avoir cette rencontre miraculeuse qui fait l'objet principal de ce livre et de toutes les légendes, les mythes, l'admiration et l'amour que les mélomanes du monde entier portent à la deuxième épouse, la petite Anna Magdalena. Alors, comment sont-ils rencontrés ?
Bach, à ce moment-là, a 36 ans, donc comme vous venez de le dire, il est veuf depuis quelque temps. Maria Barbara est décédée donc en 1720, au retour d'un voyage de Jean-Sébastien à Karlsbad. Il a 36 ans, il est Kapellmeister de la cour d'Anhalt Köthen, c'est-à-dire, à ce titre, il est responsable de toute la musique, et il est chargé par le prince Léopold d'Anhalt Köthen de recruter un soprano. Parce que, comme on le sait généralement, le prince Léopold était avant tout un passionné de musique. Et il s'était évertué à constituer dans sa minuscule principauté, on peut dire, un orchestre de tout premier ordre. Il n'avait pas son pareil pour recruter les meilleurs éléments d'Allemagne dès qu'il se trouvait libre. Il avait notamment fait un coup d'éclat en récupérant, si l'on peut dire, les meilleurs musiciens de la chapelle de Berlin au moment de leur licenciement par le roi de Prusse Frédéric Guillaume Ier, le père de Frédéric II, qui n'avait aucun intérêt pour la musique et qui ne pensait qu'à ses affaires militaires.
Et donc, il a récupéré Jean-Sébastien Bach, c'est aussi
alors,
un coup d'éclat.
Il a d'abord récupéré les violonistes, les gambistes, et son meilleur coup, si on peut dire, oui. C'est Jean-Sébastien.
Et il va en faire son agent recruteur.
Et il va en faire son agent recruteur, notamment parce qu'il dit maintenant, bon, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, il manque une chose, il me manque un élément dans mon orchestre, c'est une bonne soprano. Et Bach, très vraisemblablement, va être chargé de procéder à ce recrutement. Comment l'a-t-il fait quand on ne le sait pas trop. Toujours est-il qu'il a dû avoir l'occasion d'entendre Anna Magdalena à Zerbst ou à Weissenfels, dans l'une de ses cours voisines où Bach se déplaçait assez fréquemment. Et il l'a certainement vue à cette occasion-là. Et elle est invitée à auditionner, si on peut dire, à Köthen. Le prince Léopold l'embauche sur le champ et un salaire mirobolant. Donc on peut supposer qu'elle avait une voix qui devait quand même être assez exceptionnelle. Sinon, sur sa formation, il n'y avait pas de conservatoire, il n'y avait pas d'école de musique, donc on apprenait sur le tas. Son père était musicien, le père d'Anna Magdalena était un musicien assez brillant, son oncle aussi, qui était titulaire de l'orgue de l'église du château de Zeiss.
Et puis si je vous ai bien lu, il y a aussi toute une famille de trompettistes, musiciens municipaux.
Les trompettistes dans la famille d'Anna Magdalena, c'est absolument, ça laisse rêveur. Donc son père est trompettiste, son oncle est organiste et trompettiste, son frère aîné est trompettiste, elle a 3 sœurs qui vont épouser 3 trompettistes.
Bon, alors elle arrive à Köthen, elle est engagée, et elle a quel âge ? 20 ans à peu
près. Elle a 20 ans, tout juste.
Et elle est très bien payée, elle est la prima donna en quelque
elle
sorte.
Elle est la prima donna, elle est indépendante financièrement.
Et alors ce petit bout de femme dont on n'a hélas pas de portrait, il y en a eu un qui est perdu, vous le dites,
oui. Mais
on la devine dans la musique de Jean-Sébastien à chaque fois qu'il parle d'amour. Bon, et elle va s'éprendre de ce veuf qui a presque le double de son âge,
mais oui.
Qui a 4 enfants à charge, mais c'est inouï cette histoire.
Mais oui, c'est pour ça, moi je reste convaincu, contrairement à ce qu'on peut lire à droite à gauche, c'est un mariage d'amour, il ne peut pas en être autrement. Bach a 16 ans de plus qu'elle, il a déjà 4 enfants, dont les aînés sont adolescents, des âges difficiles. Il y a tante Fridolin à la maison, il ne faut pas l'oublier,
qui
régente la maison, qui a pris des habitudes et qui est inamovible. La preuve, c'est qu'elle restera encore très longtemps. Et elle a tout juste 20 ans. Rien ne l'oblige à se marier. Elle est indépendante financièrement. Rappelons-le, c'est absolument exceptionnel pour l'époque, pour une femme.
Elle chante à la cour.
Elle chante à la cour. Et ça va être la plus belle période de sa vie, on peut dire, parce que là, vraiment, elle a voulu en faire son métier, manifestement.
Et elle l'a exercé, quand même.
Et elle l'a exercé quelques années à Köthen, brièvement.
Alors, on sait, il y a des cantates qu'elle a chantées.
Alors, on n'a pas avec certitude les cantates qu'elle a chantées, mais bon, par exemple, la cantate qui a été donnée en 1722 pour l'anniversaire de Léopold, d'Auschlaus de Léopold, c'est très vraisemblablement Anna Magdalena qui devait tenir le soprano.
Thank you. Alors après cette période heureuse de la fin du séjour à Köthen, les choses ne tournent pas très bien pour Jean-Sébastien. Il aspire à avoir un poste de plus grande importance, de plus grand prestige. On le retrouve à Leipzig, où il arrive avec Anna Magdalena et avec la famille déjà, meubles, bagages, et s'installe à l'école de Saint-Thomas, où il va rester toute sa vie.
De plus grand prestige, c'est peut-être pas le cas. C'était plutôt un besoin de composer de la musique spirituelle. Et d'autres raisons aussi. Bon, celle qui est la plus souvent citée par les historiens, le fait que le prince Léopold va épouser une princesse d'Anhalt Bernbourg qui n'avait aucun penchant pour la musique. On a souvent dit que bon, c'est pour cette raison, le prince s'est détourné de la musique et que Bach s'est rendu compte qu'il n'avait plus grand-chose à faire à cette cour. C'est l'une des raisons. Une autre raison plus importante à mes yeux, c'est que Bach voulait que ses enfants étudient à l'université, toujours la grande obsession de Jean-Sébastien, qui lui n'avait pas été à l'université.
Puisqu'orphelin, il n'avait pas pu.
Puisqu'orphelin, ouais. Voilà. Et il veut à tout prix résider dans une ville universitaire, un peu comme un cadre moderne aujourd'hui le ferait, dans le souci d'une bonne éducation de ses enfants. Donc c'est l'une des raisons qui l'ont poussé à accepter ce poste de cantor, c'est-à-dire de professeur de musique et de directeur musicais, directeur de la musique de Leipzig. Alors pour Anna Magdalena, la question est tout à fait différente. Pour elle, ça signifie la fin de sa carrière, pratiquement. Pour quelle raison ? Leipzig est une ville de foires et de commerce. Il n'y a donc pas d'orchestre de cour, comme il y en a dans les petites principautés allemandes, ou à Dresde, la capitale, ou à Hambourg. Il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas d'opéra non plus. Il y en avait eu un, mais il a déjà fermé ses portes depuis 3 ans quand les Bach arrivent à Leipzig. Donc pas de débouché, si on peut dire, de ce côté-là. Elle pouvait se dire qu'elle aurait pu chanter à l'église parce qu'il y avait une tradition très importante de musique religieuse à Leipzig. On chantait des motets, des cantates tous les dimanches dans les églises principales. Et malheureusement, les femmes n'y ont pas leur place.
Elles avaient déjà tellement d'affaires à la maison.
Voilà. Bon, encore qu'il s'agissait d'usages locaux. Certaines villes autorisaient les femmes à chanter à l'église. À Leipzig, ce n'était pas le cas.
Ce n'était pas interdit, mais ça ne se faisait pas.
Ouais.
Alors cette prima donna qui est fêtée, qui reçoit un salaire presque mirobolant aujourd'hui, qui est autonome financièrement pour une jeune femme de 20 ans, à cette époque, c'est tout de même extraordinaire, va tout d'un coup se retrouver mère au foyer, maîtresse d'un intérieur et renoncer à cette carrière.
Voilà, c'est le grand virage de la vie d'Anna Magdalena.
C'est terrible.
Et c'est terrible. Et c'est terrible. Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Parce que c'est une musicienne née. Elle a la musique dans le sang, manifestement. Bon, la vie publique lui est barrée. Que va-t-elle faire ? Alors elle va copier de la musique. Elle va copier toutes sortes de musiques. Tout d'abord, pour aider son mari. Comme vous le savez, Bach arrive à Leipzig, il doit composer une cantate toutes les semaines. Donc il y a un important travail de copie de musique, les parties séparées, tout le monde s'y attelle, les pensionnaires de l'école, les élèves privés de Jean-Sébastien, les fils quand ils seront encore à la maison. Et donc Anna Magdalena va prêter main forte.
C'est un atelier qui tourne à plein régime.
C'est un atelier, on appelait ça l'atelier Bach, c'est qui tourne à plein régime. Et quand il y avait un coup dur, on n'avait pas fini, le soir tard, les élèves étaient partis, et ben c'est Anna Magdalena qui s'y mettait et qui continuait et qui était un peu taillable et corvéable à merci. Alors on a retrouvé pas mal, notamment de parties séparées de cantates où on reconnaît son écriture. Elles ne sont pas toujours exemptes de fautes, la fatigue se fait sentir. C'est vrai que bien souvent, elle copie de la musique pendant ses maternités, pratiquement jusqu'au terme de ses maternités.
Elle a une vie très rude, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de... La vie des femmes à cette époque est terrible.
Je dis toujours dans ce livre, je n'ai pas fait de découverte sensationnelle, mais je me suis au moins aperçu d'une chose, c'est la dureté de la vie de ce siècle. Et on découvre une vie extrêmement dure qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui.
Elle devait se lever à 5h du matin, il y avait beaucoup de monde sous son toit.
On se levait à 5h du matin chez les Bach. Il y avait, dans les plus grosses années, notamment l'année 1732-33, qui a vu vraiment le pic de la famille, ils étaient 11, c'est-à-dire enfants et parents, auxquels il fallait ajouter des élèves pensionnaires. Donc on était tous les jours une quinzaine à table.
Oui, et les amis de passage. Et les collègues qui venaient.
Voilà, alors il fallait faire à manger pour tout ce monde-là. Il y avait les lessives, on faisait la lessive dans la buanderie qui était au sous-sol. On allait faire sécher le linge au 8e étage dans le grenier.
Il n'y avait pas l'ascenseur, rappelons-le.
Les manutentions auxquelles cela donnait. Oui. C'était donc une vie complètement différente de cette vie un petit peu dorée qu'elle devait mener à Köthen.
C'est une preuve d'abnégation, donc d'amour.
Donc d'amour, mais oui.
Évidemment.
On revient toujours là. Bon, bien sûr, certains pourront dire qu'elle n'avait pas le choix. Bon, c'était le choix de Jean-Sébastien. Bon,
alors, sait-on si elle a continué à pratiquer la musique, au moins à la maison ?
Alors, elle l'a pratiquée à la maison, oui, on en a. Et là, pour une fois, la preuve formelle. On a gardé son petit cahier de musique, et qui est une mine d'or, parce qu'elle n'a pas laissé beaucoup d'écrits, elle n'écrivait pas volontiers, elle avait une orthographe déplorable, mais on a la chance de posséder son cahier de musique. L'original est toujours à la Staatsbibliothek de Berlin, et il existe dans le commerce des éditions facsimilées qui sont tout à fait abordables et tout à fait émouvantes.
Alors, elle copiait dedans les musiques qu'elle aimait jouer ou chanter, ou qu'elle aimait près d'elle.
Voilà, alors il y a tout simplement les musiques qu'elle aimait chanter, qu'elle aimait avoir près d'elle, qu'elle voulait conserver. Parce que c'est vrai que les musiques n'étaient pas éditées, donc la meilleure preuve sont les cantates de Jean-Sébastien, qui n'étaient pas imprimées, elles n'étaient pas destinées à être conservées, on les jouait le dimanche, et puis après, bon, on les gardait, mais elles n'étaient plus jouées avant des années et des années. Et donc, quand une cantate plaisait à Anna Magdalena, elle en isolait une aria, et elle a recopié dans son cahier de musique.
Oui, et pas seulement de son mari, parce que c'est une sorte de livre de bord intime d'Anna Magdalena elle-même, ce qui fait qu'on la connaît quand même un petit peu, et il n'y a pas que des musiques de son mari.
Voilà, alors ça peut être... On a gardé, par exemple, une aria qu'on a longtemps attribuée à Jean-Sébastien Bach et qui, en fait, est de Stölzel, le maître de chapelle de Gotha, et qui est le célèbre Bis du Beimir, longtemps attribué à Bach, et qui est en fait une aria d'un opéra qui s'appelait Diomède ou le triomphe de l'innocence, qui avait été joué en 1718 pour l'anniversaire du margrave à la cour de Bayreuth. Et ça devait être un tube de l'époque qui traînait un petit peu partout. Je suis sûr qu'il doit exister dans d'autres cahiers de musique de certaines familles. Et ça avait manifestement plu à Anna Magdalena qui l'avait recopié pour le chanter.
Pour le chanter, à son mari, à moins que ce soit son mari qui ne lui chante.
Voilà,
si tu es auprès de moi, je m'en irai avec joie vers la mort et vers mon repos. On voit déjà apparaître la mort. C'est-à-dire que je serai heureux au moment de ma mort. Ah, que ma fin serait heureuse si tes belles mains fermaient mes yeux fidèles. Ooh. Donc cette aria qui n'est pas de Bach, que l'on a cru de Bach et qui est un reflet de l'intimité, de la tendresse, de la confiance que la femme a pour son mari et sans doute le mari pour sa femme, bien sûr. Il n'y a pas que ça dans ce petit livre de musique, il y a toutes sortes de choses. On parle beaucoup de la mort, bien sûr.
Alors oui, je dirais que c'est le dénominateur commun. C'est toujours la mort, comme on le verra. Alors il n'y a pas, là on a vu les airs qu'Anna Magdalena aimait, tout simplement. Et il y a aussi les pièces d'ordre didactique, on pourrait dire, qui étaient faites pour... Alors, c'est les premiers essais de composition des enfants, et c'est aussi des petites pièces faciles que l'on copiait à leur usage pour leur apprendre. Et dès le début, on a par exemple des pages où Anna Magdalena a recopié au-dessus des portées le nom des notes, l'écriture allemande, oui, A, B, C, D,
pour
apprendre vraiment les rudiments du solfège aux jeunes enfants.
Oui, il faut bien rappeler que la musique faisait partie de l'éducation primaire pour tout le monde et que l'enseignement primaire passait par la mère.
Selon la volonté
de Luther.
Oui, c'était vraiment du ressort.
La Hausmutter, comme on disait. Voilà. À la fois la mère et maîtresse de maison, voilà. maîtresse de la famille.
Exactement. Et la Hausmutter, on lui demande de pratiquer la Hausmusik, ce qu'elle fait parfaitement. Elle est parfaitement dans son rôle quand elle apprend le solfège à ses enfants. Et il y a notamment une page très émouvante du petit cahier de musique d'Anna Magdalena. C'est celle où une musique a été copiée assez maladroitement par l'un des fils, tout jeune. On suppose que c'est le jeune Gottfried Heinrich, le simple d'esprit.
Mais très doué pour la musique.
Son demi-frère, Carl-Philippe Emmanuel, a dit de lui que c'était un grand génie qui n'a pu se développer. On n'en saura pas plus, comme souvent avec Carl-Philippe Emmanuel, mais qui montre bien ce qu'était cet enfant. Et on lui attribue souvent, en effet, cet air du petit livre de musique d'Anna Magdalena qui s'appelle « Les pensées édifiantes d'un fumeur de tabac ».
Alors, le fumeur de tabac, c'est Jean-Sébastien. On imagine qu'il rentre à la maison, qu'il pose sa houppelande et son chapeau, qu'il enlève sa perruque et qu'au coin du feu, il allume une pipe. On sait qu'il fumait la pipe.
Ouais. Et donc, on pourrait s'attendre à un air très léger, très badin. Et en fait, quand on regarde les paroles, c'est encore le thème de la mort qui revient.
Vous nous dites les paroles.
On peut peut-être dire le premier couplet. « Ma pipe est toute argile et terre, et je suis fait à son instar, puisque je tournerai en poussière. Elle tombe, se brise, et point n'est rare qu'entre mes mains aussi, en deux, elle se casse. Mon sort, comme le sien, est tout à fait fugace. »
So oft ich meine Tubakspfeife mit gutem Knaster angefüllt, zu Lust und Zeitvertreib ergreife, so gibt sie mir ein Trauerbild und füget die Erliere bei, dass ich dir selben ehrlich sei, und füget diese Liere bei, dass ich dir selben ehrlich sei. Wenn nun die Pfeife angezündet, so sieht man, wie im Augenblick der Rauch in freier Luft verschwindet. Nichts als die Asche bleibt zurück. So wird des Menschen Ruhm verzehrt und so sein Leib in Staub verkehrt. So wird des Menschen Ruhm verzehrt und so sein Leib in Staub verkehrt. Ich kann bei so gestalten Sachen mir bei dem Tobak jederzeit erbauliche Gedanken machen. Drum schmauch ich vor Zufriedenheit zu Land, zu Wasser und Mädchen steht in Andacht aus, zu Land, zu Wasser und zu Haus. Mein Pfeifchen steht in Andacht aus.
Alors, Philippe Lesage, vous l'avez dit, la vie au quotidien à Leipzig n'est pas toute rose, mais c'était malheureusement le sort dévolu à toutes les femmes de ce temps. Il est vraisemblable quand même que dans cette grande maison du directeur de la musique, il y avait de l'aide, j'imagine, que les domestiques faisaient un peu partie de la famille, mais qu'elle était aidée, la malheureuse.
Alors elle était aidée, on n'en a pas de preuve formelle à Leipzig, on a simplement la trace d'une bonne qui avait été embauchée à Köthen. Donc, on n'a pas la preuve formelle, mais il y avait certainement une ou plus vraisemblablement deux servantes qui aidaient dans cette grande maison du Thomas Kirchhoff à Leipzig. Cette maison qui s'étendait sur plusieurs niveaux, qui était tout à fait incommode dans son plan, qui était suffisante, à peu près suffisante en surface, notamment après l'agrandissement de 1732. À cette époque, le recteur du lycée est un certain Gessner, qui reconnaîtra les mérites de Bach, contrairement à pas mal d'autres de ses collègues, et qui prendra les choses en main, qui fera tout pour faire agrandir l'école et le logement du cantor.
Mais tout de même, quand on lit l'inventaire de ses biens à son décès, on voit qu'il y avait, sous le toit familial, beaucoup d'instruments de musique, une dizaine d'instruments à cordes, que sais-je, mais 11 instruments à clavier. 8 plus 3, si j'ai bien lu. Et donc, ce qui veut dire qu'il y en avait dans toutes les pièces.
Il y en avait
C'était un grand logis. Et qu'il y avait de la musique dans toutes les pièces.
Oui, absolument. Il y avait au moins une dizaine de clavecins, puisque l'inventaire en compte 7. Et il y en a 3 qui ne sont pas repris dans l'inventaire, parce que Jean-Sébastien les destinait à son plus jeune fils, Johann Christian. Il y avait plusieurs violons, dont un Steiner.
Oh, puis il y avait des flûtes et des hautbois dans tous les tiroirs.
Tous les instruments avant qui n'étaient pas repris dans l'inventaire, parce que leur valeur marchande n'était pas grande. Mais il y avait, c'est vrai, énormément d'instruments de musique. On achetait énormément d'instruments chez les Bach.
Ce qui veut dire que tous les enfants, et je suppose même les filles, même si elles n'en avaient pas l'usage professionnel, devaient faire de la musique. Et chanter, naturellement, comme Luther le voulait. Donc c'était une ruche, c'était une maison où on entendait bourdonner tout le temps.
C'était une ruche, on faisait de la musique le soir, soit quand on était simplement en famille, ou plus souvent quand il y avait des invités de passage. Bon, on a la trace, par exemple, du fils aîné Wilhelm Friedemann, qui est en poste à Dresde et qui revient passer quelques semaines chez ses parents à Leipzig. Il vient avec deux luthistes connus de l'époque et on trouve dans une lettre où on parle de ce passage et dit pas dans tout ce temps on a écouté extra feines von Musik, de la musique tout ce qu'il y a de plus raffiné, et ça donne bien l'ambiance qui devait régner dans la maison des Bach. Et bien sûr tout le monde, et notamment les femmes, même si elles étaient en retrait, jouaient d'un instrument. Anna Magdalena jouait certainement du clavecin, puisqu'il y a énormément de pièces de clavecin dans son cahier de musique, c'est pas par hasard.
Et elle chantait, et on peut penser, je crois, qu'il y a quand même des cantates ou des extraits de cantates qui avaient un usage à la maison tout à fait privilégié, qui parlaient de choses essentielles. Je pense à la cantate 82.
Il y a notamment cette cantate, vous devez penser à la cantate des 82.
Mais évidemment, on en connaît 4 versions, dont une pour soprano et une pour basse. Et c'est Magdalena.
La première était pour basse, et très vite, Jean-Sébastien en refait une autre pour soprano, donc il ne peut pas ne pas penser à Anna Magdalena à ce moment-là.
Et, voilà, oui.
Et on en a trace dans ce cahier, même à 2 reprises dans le cahier. Elle l'a copié 2 fois. Une première fois, elle copie le récitatif introductif de la cantate, et tout de suite après, l'aria, qui est la berceuse mystique, Schlummertheim, hier Mattenhaugen, endormez-vous mes yeux s'il l'a. Donc il n'y a pas l'introduction ni la conclusion instrumentale, juste la partie de basse. Donc on a la preuve que c'était vraiment copié pour être chanté par elle en famille, et dans l'exercice de cette piété familiale, cette piété domestique que tous les luthériens pratiquaient en Allemagne à cette époque.
Merci Philippe Lesage, vous venez de brosser un tableau très évocateur, très touchant d'ailleurs, c'est le fait de votre livre qui est très émouvant parce qu'il y a toutes les données historiques parfaitement avérées, il y a des hypothèses qu'on est en droit de formuler, mais on n'est pas dans l'aventure romanesque et néanmoins ce livre est très émouvant à lire, et je pense en particulier, il y a des figures féminines qui apparaissent, comme la fameuse librettiste de certaines cantates, bon, on ne peut pas parler de tout cela, mais je pense à l'émotion que j'ai personnellement ressentie à vous lire sur l'évocation des toutes dernières années, quand Jean-Sébastien devient aveugle, et surtout les années de veuvage, puisqu'elle va survivre à son mari, cette merveilleuse Anna Magdalena, si dévouée, si touchante qu'elle eut tellement compté pour lui pendant près de 10 ans. Et alors, il y a eu des légendes abominables, on a dit qu'elle quêtait à la sortie de l'église, enfin, sans la moindre preuve, mais vous, vous les avez, les preuves de ce qui s'est passé.
Oui, on a des... Là, dans ce domaine, les documents existent. On peut reconstituer un petit peu ses revenus, et c'est vrai qu'on lit très souvent qu'elle est morte dans la misère. C'est un bien grand mot. Bon, je parlerais plutôt d'une certaine précarité, c'est vrai.
Il n'y avait pas d'assurance vieillesse.
Il n'y avait pas d'assurance vieillesse, mais justement pour les compenser, il y avait tout un système d'allocation, pourrait-on dire, même si on appelait ça des aumônes, mais c'était le mot consacré de l'époque, mais ça avait plutôt le caractère d'allocation, en ce sens qu'elles étaient régulières, c'était des versements réguliers. Et c'est comme ça que, bon, on voit que Anna Magdalena touche un thaler par semaine. Bon, c'est presque au total la moitié du salaire fixe de Jean-Sébastien. Attention, ce salaire fixe ne lui suffisait pas à vivre. Il vivait grâce à ce qu'on appelait les accidentia,
le casuel,
c'est-à-dire tout ce qui touchait à l'occasion des mariages, des enterrements, etc. Les leçons qu'il donnait, les instruments de musique qu'il louait, etc.
Et puis alors, j'ai vu ça à la Leipzig, un testament, il y avait des donations, des legs.
Alors il y avait, donc, première source de revenus, l'allocation de la mairie. Deuxième source, l'allocation de l'université, parce qu'il ne faut pas oublier que Bach travaillait également pour l'université. Il était responsable de la musique pour certains cultes. On ne va pas rentrer dans les détails, c'était très compliqué, mais il était responsable de la musique pour certains cultes à l'église de l'université, l'église Saint-Paul. Et donc, de ce fait, Anna Magdalena a touché des allocations jusqu'à sa mort. Troisième source de revenus, il y avait, vous venez de le dire, les legs. C'est-à-dire que de riches bourgeois, quand ils venaient à décéder,
s'ils n'avaient pas d'héritier
ou détournaient une partie de leur héritage, qu'on laissait en capital, et les intérêts étaient versés à des veuves ou des étudiants méritants. Et c'est comme ça que Anna Magdalena va bénéficier d'un leg. Bon, ça lui rapportera pas énormément, mais elle aura 5 thalers par an pendant des années. Bon, sauf pas dans la guerre de 7 ans, parce que malheureusement, à ce moment-là éclate la guerre de 7 ans en plein veuvage d'Anna Magdalena, et ça aura des conséquences sur les versements de ses allocations. Et elle aura des passages difficiles. Il y aura même des moments où la mairie rachètera des œuvres manuscrites de son mari, et notamment l'Art de la Fugue, quelques copies imprimées, et ça lui permettra d'arrondir les fins de mois. Si on
oui, parce dire. Qu'elle voilà. en a besoin, elle ne voilà. peut plus chanter ni faire de la musique. Voilà. Elle a hélas passé l'âge, elle n'est plus exercée à cet art, et alors elle va faire des petits travaux pour aider quand même à la
On a parlé de travaux de couture, on n'en a pas la preuve, ce sera le cas pour sa fille, où là, la précarité était plus grande. Donc, pour Anna Magdalena, je dirais une grande précarité, mais pas de misère, mais un veuvage difficile, une fin de vie très triste. Les enfants sont partis.
Et puis, à l'ombre du maître, et que tout le monde a dû vénérer, et qui devait fasciner tout le monde, évidemment.
Qui fascinait tout le monde, voilà.
Elle était certainement préparée à cette idée de la mort, comme d'ailleurs tous les chrétiens de ce temps l'étaient, mais spécialement chez les Bach. Féru des Saintes Écritures, féru de théologie, et qui vivait constamment avec la mort.
Constamment avec la mort. Si on regarde les dernières années de la vie de Jean-Sébastien Bach, Anna Magdalena voit mourir le fils de Jean-Sébastien, qui est mort à Iéna, Johann Christoph.
À 24 ans.
À 24 ans.
Et puis un certain nombre de ses propres enfants.
Alors, sa mère, elle voit mourir sa mère. Alors oui, je ne parle pas des enfants qui meurent avant 5 ans, parce que ça, bon, on ne l'a pas dit, c'est vrai.
Un sur deux.
Il faut savoir qu'on ne l'a pas dit, mais Anna Magdalena, bon, va donner 13 enfants à Jean-Sébastien. Sur ces 13, 7 n'atteindront pas l'âge adulte. 7 enfants vont mourir avant l'âge de 5 ans.
Elle est pratiquement enceinte sans discontinuer le temps du sevrage, et pour un enfant sur deux, elle les conduit au cimetière.
Quand on regarde la décennie 1723-1733, c'est absolument hallucinant. Tous les ans, un enfant naît, un enfant meurt, un enfant naît, un enfant meurt.
C'est effarant.
C'est absolument effarant, puisque c'est plus à la fin que ça va s'arranger, qu'elle va garder ses enfants. Mais cette décennie-là est absolument effroyable.
Mais alors, ces gens si pieux, si profondément chrétiens, ne craignent pas la mort. Et d'ailleurs, le petit livre de musique, mais toute la musique, toutes les cantates de Bach et autres, nous disent, on attend même l'heure de la mort qui va nous délivrer de toutes les vicissitudes d'ici-bas, et Dieu sait que si elles sont nombreuses.
Mais la vie est si dure que finalement, le plus grand espoir qu'on a, c'est la mort qui va venir nous délivrer.
Et ça, c'est le contraire de ce qu'on pense aujourd'hui. Il faut le rappeler quand même.
Et si on regarde, on a entendu quelques pièces du petit livre de musique d'Anna Magdalena, que ce soit les pièces légères, que ce soit les pièces didactiques, que ce soit
les airs de cantate,
les ariés spirituels, les trois se réfèrent à la mort. On a vu les pensées édifiantes d'un fumeur de tabac, on a vu que c'était pas léger, pas du tout. On a vu la cantate Ich habe genug, ça nous parle de la mort. Et tout est comme ça. Même le Bis du Beimir, cet air d'opéra, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ben, il nous parle de la mort.
Et même dans des petits chorales, des petites pièces légères, comme le fameux Comme Zusertour, par lequel j'aimerais que nous finissions notre entretien, qui est une pièce si émouvante.
C'est très émouvant. Ça fait partie des cantiques de Chemély.
Chemély, c'est le nom de l'éditeur.
C'est le nom de l'éditeur qui éditait un recueil de plus de 900 cantiques qui sont toujours chantés aujourd'hui. Et Bach a collaboré à ce recueil avec Chemély autour de 1736. Et Chemély est travaillé à Zeiss, la ville natale d'Anna Magdalena. Et on peut supposer que Bach, quand il se rendait à Zeiss, peut-être qu'Anna Magdalena l'accompagnait dans sa ville natale et qu'elle a dû entonner certains de ses cantiques. Et l'un des plus beaux, l'un des rares dont on soit sûr que Jean-Sébastien en soit l'auteur, c'est comme Zusertod, viens douce mort, viens conduis-moi dans la paix, parce que je suis là du monde. Ah, viens, je t'attends, viens vite et conduis-moi, ferme-moi les yeux, viens bienheureux repos.
Merci Philippe Lesage. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui m'a tant séduit et ému, je dois le dire, en même temps qu'on y apprend beaucoup de choses, non seulement sur Anna Magdalena, mais surtout le contexte de l'époque, et notamment sur la condition féminine, et Dieu sait si c'est important. Anna Magdalena Bach et l'entourage féminin de Jean-Sébastien Bach aux éditions Papillon à Genève.